go too early. I'm gonna keep it early. I'm ready to go. Can't help but guess it. I have a guess it for fun. It's just what I do. Come on, oh, don't you get nervous. Other people say I'm gonna seen tonight. I'll show ya my now. You should know I'll be wet all the time. And it's gonna be dangerous. Feel it now, way, cause I never stop. I look it now, way, yeah. I am under
Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode de Paraculte, un générique un petit peu spécial pour un épisode musical de Paraculte. Alors je serai seul cette fois-ci parce que j'ai pas d'amis ou peut-être juste parce que l'émission va peut-être être suffisamment longue comme ça. C'est bien que le format de Paraculte c'est justement de ne pas être trop long, donc les 40-45 minutes. Et c'est vrai que comme il y aura des extraits de musique, il y aura des choses qui, voilà, feront, disons, allonger un petit peu la sauce. Et du coup, forcément, si on avait été deux, avec deux gros sujets comme ça, ça va peut-être un petit peu déborder. Alors du coup, là, on va essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça tout seul. Alors de quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler des vocaloïdes. Donc vous avez entendu, pour le générique, vous avez entendu Goumi. Et Goumi qui chantait donc une chanson qui s'appelle Machine Gun, qui a été composée par Kira. Et voilà, donc cette jeune fille, cette chanson, elle a quelque chose de particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà saisi ce que c'était, je pense que beaucoup ont peut-être déjà deviné, c'est qu'elle n'existe pas. Et oui, Goumi n'existe pas, en tout cas Goumi n'est pas une femme, hein. Goumi c'est un synthétiseur, c'est ce qu'on appelle une vocaloïde. Et les vocaloïdes, en fait, c'est un gros phénomène, et c'est un phénomène absolument fascinant pour plein de raisons. Évidemment techniquement déjà, parce que une vocaloïde, c'est un synthétiseur, mais qui chante, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Il a fallu attendre un petit moment pour avoir des choses vraiment convaincantes, d'ailleurs, on va en parler, d'ailleurs, on va peut-être faire un petit historique d'abord. Mais c'est vrai que les vocaloïdes, c'est des choses qui sont vraiment fascinantes pour plein d'autres raisons, et en particulier pour la manière dont ça fonctionne, parce que moi j'avais mentionné Hatsune Miku donc dans un tech café, et je me suis rendu compte que finalement Hatsune Miku, c'était pas forcément très connu par tout le monde ici en Occident, hein, même s'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent, et moi-même en fait, avant, il n'y a pas si longtemps que ça, je considérais Hatsune Miku comme une sorte d'idole virtuelle, voilà, une sorte comme les idoles qu'on voit au Japon, mais artificielle, et effectivement, je considérais vraiment que c'était une idole virtuelle. Alors qu'en fait, on pourrait presque dire que c'est exactement l'inverse d'une idol, et du coup, la manière dont elle fonctionne, le phénomène qu'il y a derrière, artistique et social, ainsi que d'ailleurs son business model, c'est quelque chose d'assez inspirant finalement, et qui est vraiment intéressant, je pense, à décortiquer. Alors du coup, on va forcément essayer de voir un petit peu pourquoi, et c'est vrai qu'on va peut-être commencer par l'historique, donc un petit peu d'histoire des vocaloïdes. Parce que faire chanter des machines, faire chanter des ordinateurs, c'est pas d'hier. C'est un truc qui est assez ancien, puisque ça remonte aux années 60. Hein. Il y a Daisy, qui est un gros ordinateur de l'époque, en 62, je crois, qui chantait déjà. Alors évidemment, c'était pas très artistique, mais c'était déjà une bonne performance. Et dans les années 90, d'ailleurs en 92 même, pour être précis, on a eu un truc assez marrant, on a eu Pavarobotti. Pavarobotti, c'est quoi ? C'est un robot Pavarotti, tout simplement. Et donc en 92, il y avait un ordinateur qui chantait Pavarotti, il a même chanté en duo. Alors je crois que je vais vous mettre d'ailleurs, là, je vais vous insérer, pour que vous puissiez vous faire une idée, un petit morceau de Pavarotti de quelques dizaines de secondes, pour que vous puissiez avoir une idée. Alors Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve ça plutôt fort, parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, pour faire le Pavarotti, là, que vous venez d'entendre, il a fallu modéliser la voix de Pavarotti. C'est-à-dire que les mecs ont fait une sorte de modèle physique de la voix de Pavarotti. Ils ont regardé quelles harmoniques il y avait dans sa voix. Ils ont fait un modèle mathématique, et c'est ce modèle mathématique qui chante. Donc, c'est quelque chose de vraiment spécifique qui est tuné à la main, quoi. Et du coup, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment généralisable. Donc, c'est un petit peu compliqué d'en faire un produit. Tout simplement, il a fallu attendre jusque vers les années 2000, en fait, un petit peu avant les années 2000, parce que c'est Yamaha qui a approché l'université de Pompeu, le Pompeu Fabra, donc en Espagne. Ils ont approché les chercheurs parce qu'ils voulaient faire un truc super important dans la culture japonaise. Ils voulaient améliorer les performances des chanteurs de karaoké, parce que bon, le karaoké, c'est important au Japon. Et le karaoké, évidemment, tout le monde n'est pas très doué au karaoké, j'en sais quelque chose. Et donc, effectivement, ce qu'ils voulaient faire, en fait, c'est une sorte d'autotune pour les chanteurs de karaoké, mais à l'époque, quoi. Et pour ça, il fallait faire des recherches. Donc, les chercheurs de l'université se sont penchés sur la question. Ils ont créé un truc qui s'appelait le morphing spectral. Le morphing spectral, globalement, c'est pas très compliqué, en fait, hein. C'est la voix est samplée, donc la voix est enregistrée. On la transforme, donc on prend le spectre de la voix. Et ce spectre, on le décale, on le manipule, on le morphe, quoi, hein, avant de le retransformer en voix. Donc c'est globalement effectivement ce qui est fait dans un autotune, hein, très très de manière très très rapide. Et ça permet de éventuellement donc changer la note qu'a une voix, donc la rendre juste si elle n'est pas juste, ou voilà, ce genre de choses. Alors ça marchait bien, c'était ce qu'on appelait le projet Elvis. Et ça n'a pas donné un vrai produit, parce que en fait ça agissait sur l'intégralité de la chanson à l'époque. Et du coup, c'était pas forcément très très pratique. Mais Yamaha n'est pas resté là. Ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose si, au lieu de prendre la chanson entière, on prenait tout simplement les phonèmes, c'est-à-dire évidemment les syllabes globalement. Donc ces phonèmes, évidemment, on les prend, on les isole, et puis on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on les déplace dans le champ spectral pour avoir la note qu'on veut. Et ils se sont dit, finalement, ça pourrait être une idée. Et du coup, ils ont lancé une recherche là-dessus, et c'est cette recherche donc qui va finir par aboutir. Bon, évidemment, c'est pas facile comme truc, parce que vous imaginez bien que vous avez les phonèmes, il faut les lier ensemble de manière naturelle pour que ça puisse faire une véritable chanson. Donc c'est pas quelque chose de simple, mais Yamaha a envoyé un de ses ingénieurs qui s'appelait Hideki Kenmochi. Et Hideki Kenmochi, aujourd'hui, c'est un petit peu le père du Vocaloid, c'est lui qui a permis le développement de la technique, quoi. Et cette technique, elle a tellement bien marché que finalement, Yamaha a fini par licencier les droits de son invention à une entreprise anglaise qui s'appelle Zero G. Et Zero G en a tiré deux produits, qui s'appelaient Léon et Lola. Alors, Léon et Lola, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les premières vocaloïdes, c'est-à-dire, comme on disait à l'époque, les chanteurs dans une boîte. C'est tout simple, hein, vous prenez votre logiciel de musique, vous faites la musique, et puis au lieu d'un piano, vous avez quelqu'un, vous avez un chanteur, Léon, ou une chanteuse, Lola, et vous pouvez lui faire chanter absolument n'importe quoi. Alors je vais vous mettre là d'ailleurs un petit extrait de Léon qui vous chantera Yesterday, des Beatles, pour que vous puissiez vous faire une idée un petit peu de ce que ça donne. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé donc de ce Yesterday. Moi, je trouve ça pas si mal que ça, en fait, hein. La voix est relativement... on comprend à peu près ce qu'il dit, la voix est relativement expressive, donc je trouve que c'est déjà pas mal. Donc ça se passait en 2004. Donc c'est en 2004 que Léon et Lola ont été commercialisés. Ils ont été commercialisés assez cher en Angleterre et aux États-Unis. Ils n'ont pas eu un succès énorme, alors d'une part parce que c'était cher, je crois que c'était dans les $370 à l'époque, par voix. Donc si vous aviez Léon, il fallait aussi acheter Lola. Et donc c'était quand même assez cher, c'était très confidentiel évidemment parce que personne ne connaissait les vocaloïdes, c'était vraiment un produit qui était totalement nouveau. Et donc ce qui était intéressant, c'est que ça a quand même marché un petit peu parce que déjà ça s'est un petit peu vendu, et moins d'un an après, Zero G a publié un autre vocaloïde qui s'appelait Myriam cette fois, et qui est donc basé sur la voix de Myriam Stockley. C'est une chanteuse australienne qui était relativement connue à l'époque, en tout cas dans son pays. Et bon, pour le coup, Myriam, je crois que Myriam a été commercialisée qu'en Angleterre. Il faut savoir d'ailleurs que c'est une anecdote assez marrante. Léon, Lola et Myriam avaient tous des accents un petit peu british, et il est possible que ça ait un petit peu handicapé les ventes aux États-Unis, parce que bon, effectivement, ça s'entend un petit peu, c'est assez marrant. Myriam est de meilleure qualité en fait que Lola et Léon. C'est la même technologie, mais il y avait plus de données. En fait, ils se sont donné un petit peu plus de mal là-dessus, et c'est vrai qu'il y avait plus de données. Du coup, Myriam est un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus naturelle. D'ailleurs, je vais vous mettre un exemple tout de suite de Myriam. Voilà, Myriam qui va vous chanter Fly Me to the Moon, donc un classique. Hein. Vous allez pouvoir aussi vous faire une idée un petit peu de ce que ça donne, comme ça. Je trouve que c'est plutôt joli. En fait, effectivement, c'est. Alors, je vais pas vous passer d'extrait de Lola. Bon, vous pourrez aller voir sur YouTube hein, si vous voulez. Myriam a une voix qui est relativement douce et qui marche plutôt bien. Donc, ce sont tous des Vocaloid 1, et ces Vocaloid 1 ont quand même été utilisés, hein, par exemple, par Mike Oldfield, qui a utilisé donc ça dans un de ses albums. Et il y a eu aussi la bande originale de Paprika, le film d'animation japonais qui, en 2006, a utilisé donc la banque de voix de Lola pour faire sa bande originale, enfin une partie de sa bande originale. Je crois que c'est même le premier film qui a utilisé des vocaloïdes. Donc c'est quand même assez notable. Il y a eu une des utilisations de ce genre de truc, mais on peut pas vraiment dire que ça ait été que ça ait cassé la baraque quoi à l'époque. Mais bon, alors évidemment, le principal problème de ces Vocaloid 1, c'est que c'est encore quand même un petit peu mécanique. Et du coup, bah, ils ont imaginé de passer à une version 2 de Vocaloid en améliorant les choses. Alors comment ils s'y sont pris ? En fait, le Vocaloid 1, on va dire que c'est pas vraiment un sample, c'est-à-dire c'est une recréation de la voix humaine. C'est-à-dire que la voix humaine est enregistrée, donc il y a des vrais chanteurs hein, qui sont à la base de ça, mais on va prendre leurs caractéristiques. Et on va les réencoder dans le moteur. Et c'est comme ça que les Vocaloid 1 vont fonctionner. Ce ne sont pas vraiment des samples. À la différence du moteur Vocaloid 2, donc, alors le moteur Vocaloid 2, lui, par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sampler la voix exactement comme on samplerait un instrument de musique dans un logiciel de musique, quoi. C'est-à-dire, hein, comme un piano, hein, un piano, ben voilà, vous savez chaque note, vous samplez chaque note, en fait. Dans un piano, quand vous avez un logiciel de musique, vous samplez chaque note. Ben là, c'est la même chose. Vous allez prendre quelqu'un, vous allez prendre donc une personne, une chanteuse, et vous allez lui faire sampler chaque note. Et du coup, bah forcément, bah ça sera la vraie voix de la personne. Et du coup, forcément, ça va aussi être un petit peu plus naturel. Évidemment, le travail va rester le même. Hein. Il va falloir faire attention aux liaisons, puis il va falloir pouvoir appliquer des filtres, on va dire, pour changer l'expressivité de la voix, etc. Mais tout ça, ça va être tout à fait gérable, tout à fait possible, quoi. Alors, de manière assez amusante, les Vocaloids, donc vous voyez que les Vocaloids, qui apparemment aujourd'hui, c'est quand même un phénomène qui est principalement japonais, en fait, a des origines qui sont anglo-saxonnes, et les premiers Vocaloids sont des Vocaloids anglais. Pour l'instant, ils parlent tous anglais. Alors, ça va changer avec le Vocaloid 2, et surtout avec l'acquisition de la licence par Krypton Future Media, qui est donc une entreprise japonaise basée à Sapporo, qui, lui, va créer les deux premiers Vocaloids japonais. Alors, les deux premiers Vocaloids japonais, c'est Meiko et Kaito. Alors Meiko, c'est donc une vocaloïde japonaise, c'est la première vocaloïde japonaise, une voix féminine, évidemment c'est une voix féminine, elle s'appelle Meiko, c'est aussi un prénom féminin, c'est d'ailleurs le nom de sa mère, c'est-à-dire de la chanteuse, une chanteuse indépendante qui s'appelle Aigo Meiko, qui a fait des albums dans les années 90, et qui donc a offert sa voix, donc sa voix a été samplée pour donner la voix de Meiko. Meiko, c'est donc une vocaloïde japonaise, la première vocaloïde japonaise féminine, et elle s'est plutôt bien vendue, en fait. Elle s'est vendue à 3000 exemplaires, à peu près. Et elle avait quelque chose de vraiment particulier, cette Meiko, qui est quelque chose qu'on n'aurait pas, cru que ça avait un impact aussi important. Mais Meiko, ce qu'elle avait, c'était une personnification. Elle avait un dessin. Alors c'est tout bête, hein, parce qu'en réalité, le dessin était vraiment moche. Mais c'est un gros progrès par rapport aux autres vocaloïdes. En fait, si vous regardez les boîtes de Léon et Lola, bah, ces deux trucs étaient marketés comme des outils, c'est-à-dire comme des instruments. Donc il y avait une bouche, voilà, c'est des images stock. Il y avait la tête de Miriam Stockwell sur Miriam, d'ailleurs, mais c'était vraiment très impersonnel, c'était quelque chose d'assez générique. Alors que là, bizarrement, on ne sait pas si c'est parce que c'est au Japon ou autre chose, mais en tous les cas, le fait qu'il y ait eu un petit personnage manga sur une petite fille, c'est une fille... Donc c'est une petite brune aux cheveux courts avec une robe rouge, dessinée d'ailleurs par un non professionnel, hein, c'était un employé de Krypton qui a fait ça sur un coin de table ou presque. Et bon, ça a donné un visage, ça a donné quelque chose de graphique à la voix de la vocaloïde et ça a eu une importance absolument considérable. Étonnamment, la personnification des vocaloïdes, c'est ça qui a été la clé, ça a été en tout cas une des grosses raisons du succès et de l'émergence du phénomène vocaloïde dans son ensemble. C'est vrai que c'est assez étonnant. Alors, donc, il y a une femme, Meiko, il y a aussi un homme qui est sorti plus tard, qui s'appelle Kaito. Alors plus tard, c'est un petit peu moins d'un an plus tard. Kaito, lui, par contre, donc, ça a été un chanteur aussi, qui a été, donc ça a été samplé sur la voix de Fuga Naoto. Alors Fuga Naoto, c'est un chanteur qui est très marrant, très ouvert d'esprit. Alors Meiko aussi, hein, Meiko, la Meiko originale en tout cas. Et ces deux chanteurs qui sont vraiment très ouverts d'esprit et qui n'ont pas eu énormément de réticence à l'idée de donner leur voix à un vocaloïde. Et c'est pas si évident que ça. Parce qu'évidemment, si vous donnez votre voix à un vocaloïde, si vous êtes synthétisé, si votre voix est synthétisée, du coup, vous n'avez plus de travail, et c'est quelque chose de vraiment important. Évidemment, c'est une véritable angoisse qu'avaient beaucoup de chanteurs auxquels se sont adressés Zero G et Krypton, d'ailleurs, au Japon comme en Angleterre, parce que forcément, les chanteurs ne voyaient pas d'un très très bon œil de pouvoir être remplacés par des machines, par des synthétiseurs, on peut les comprendre. Alors Kaito, donc, c'est un chanteur donc virtuel, et lui aussi, finalement, a été personnifié. Il a été personnifié comme un jeune homme avec les cheveux bleus et un grand foulard bleu. C'est devenu un petit peu ses attributs prototypiques, quoi. Et globalement, ce qui est marrant, c'est que Fuga Naoto, donc le papa de Kaito, adore Kaito. C'est vraiment très heureux, c'est assez marrant, on n'aurait peut-être pas imaginé ça, mais ce mec adore Kaito, il adore son personnage, et il fait même la collection du merchandising de son personnage, et des petites figurines, etc. Et il les poste régulièrement sur Twitter, donc c'est assez rigolo. Ce mec est vraiment très très sympathique, et sa voix est assez proche de celle de Kaito. D'ailleurs, je crois que je vais vous mettre un petit morceau de Kaito pour que vous puissiez faire une idée. Je vais mettre un petit extrait là de Thousand Years Solo. Voilà, vous pouvez vous faire une idée comme ça un petit peu de ce que ça donne. Et donc, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ce gars, donc Fuga Naoto, a chanté lui-même lors d'un concert live. C'était un concert live qui était, alors je sais plus en quelle année, par contre. Mais c'est un concert live qui a regroupé les origines, c'est-à-dire des vocaloïdes les plus populaires, dont Kaito. Et donc, ils ont chanté les chansons qui ont été composées pour les vocaloïdes eux-mêmes. Donc, voilà. Par exemple, je vais mettre un petit extrait, parce que là, la boucle est bouclée. Je vais mettre un petit extrait de Fuga no Oto, qui chante donc Thousand Years Solo, la chanson qui a été composée bien pour son vocaloïd.
Hori hairo no oka kawaii kakare kusa kumi shimete omoi megurasseru sora no karada ni atsue ni yureru hanabira yawaraka na anata no hohoemi awai kiyoku no kakera
Voilà donc le concert Matsuri da Diva. Kaito s'est beaucoup moins bien vendu que Meiko. D'ailleurs, ça a été une des deux grandes leçons que Krypton a apprises en commercialisant Kaito et Meiko. C'est que, bon, d'une part, effectivement, il y avait quand même eu un véritable marché pour ça, donc ça c'était quand même le premier truc, mais ils ont aussi remarqué que, d'une part, la personnification de leurs produits était absolument cardinale, et que vraiment, ça a été un vrai gros succès aussi grâce à ça, et ils l'ont vu tout simplement parce qu'il y a énormément de gens qui ont commencé à dessiner des Kaito et des Meiko, à les réinterpréter, à faire du fan art, voilà, tout simplement. Et ça a créé une sorte de mouvement où des gens créaient des chansons pour des personnages qui existaient en quelque sorte dans l'imaginaire collectif. Et ça a été le tout début en fait de ce phénomène-là, qui a commencé avec Kaito et Meiko. Et donc bon, alors surtout avec Meiko, puisque Kaito effectivement ne s'est vendu qu'à 500 exemplaires, et donc ils se sont dit, bon ben les voix de mec, apparemment ça a vraiment beaucoup moins de succès. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réitérer le truc et on va faire une voix de femme. Encore une fois, une voix de jeune fille, et cette fois, ben, c'est là que ça va être le jackpot, puisque vous vous en doutez, on est en 2007, et en 2007, ben, c'est en 2007 justement que Krypton sort Hatsune Miku. Alors Hatsune Miku, vous la connaissez, hein, c'est évidemment, je pense que c'est un des personnages les plus connus quand même du monde, hein, malgré tout. Donc vous voyez très bien cette collégienne qui doit avoir 16 ou 17 ans, qui a donc ces espèces de couettes turquoises absolument énormes, avec son espèce de... Alors c'est pas vraiment... D'ailleurs c'est un oignon japonais, c'est pas vraiment un poireau, mais bon, ça ressemble beaucoup à un poireau, comme ça qu'elle a souvent, qui a cette espèce de totem. Et en fait, tout ça a une histoire. C'est-à-dire que globalement, le personnage Hatsune Miku, c'est quelque chose qui a été designé par Krypton pour personnifier en mieux, en disant de manière un petit peu plus détaillée que Kaito et Meiko, le produit Hatsune Miku qui allait donc être vendu. Et Hatsune Miku correspond aussi avec la sortie en 2007 de la seconde version de Vocaloid, donc le Vocaloid 2 pour le Japon, pour le japonais. Et c'est d'ailleurs c'est la référence, le nom aussi est une référence, puisque Miku, ça veut dire futur, et Hatsune, c'est le premier son. Donc Hatsune Miku, ça voudra dire le premier son du futur. Et donc Krypton a commercialisé ce pack en 2007, donc un nouveau logiciel avec cette nouvelle banque de voix. Et puis bah, les fans s'en sont saisis assez rapidement, et donc des musiciens amateurs tout simplement ont commencé à créer des musiques, des chansons avec Hatsune Miku, et ils ont commencé, les gens qui étaient plus doués pour le graphique par exemple ont commencé à faire des illustrations pour Hatsune Miku, et tout ça s'est retrouvé sur Nico Nico Douga, qui est une plateforme de streaming vidéo qui ressemble beaucoup à YouTube mais au Japon. Et donc il y a eu comme ça des gens qui ont commencé à faire des chansons plus ou moins jolies, plus ou moins de qualité, avec des illustrations plus ou moins jolies ou plus ou moins de qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que les choses ont commencé à s'organiser de manière tout à fait organique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui a commencé à faire une chanson, un autre qui s'est dit, bah tiens, je vais l'illustrer avec des dessins ou avec des trucs animés, et puis il y a eu des choses comme ça qui se sont mises en place de manière complètement naturelle. Et au fur et à mesure, il y a eu une communauté qui a commencé à se créer autour des Vocaloids, en particulier autour d'Hatsune Miku. Et tout ça est complètement, disons, c'est, on va dire, c'est pas la communauté de l'open source, mais c'est vraiment quelque chose qui est complètement organique. Il n'y a pas de, disons, Krypton, lui ne fait que commercialiser le logiciel en fait, il ne fait rien d'autre. Et c'est la communauté des fans qui commence à travers les illustrations, à travers les chansons, à raconter l'histoire d'Hatsune Miku. C'est une histoire que... c'est pas vraiment une histoire en fait, puis c'est complètement multiple. Il faut bien se rendre compte que quand on se demande qui est Hatsune Miku, c'est personne. C'est-à-dire qu'Hatsune Miku, elle a une fiche de personnage, un petit peu comme un personnage de manga, mais elle a pas de personnalité, elle a pas d'histoire, elle a pas de passé. Tout ça est créé en temps réel. Et donc, ça, il peut très bien y avoir des choses complètement contradictoires, mais c'est pas vraiment un problème, puisque Hatsune Miku, c'est beaucoup plus un symbole qu'un véritable personnage. En réalité, Hatsune Miku, c'est une communauté, c'est des milliers de gens. Quand on se demande qui est Hatsune Miku, la réponse, c'est des milliers de gens. Des milliers de gens qui créent non seulement des chansons, mais aussi des illustrations, mais aussi carrément des vidéos. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs la puissance de la communauté aussi, c'est qu'il y a des outils qui ont été créés pour ça, pour créer des vidéoclips. Donc là, je fais référence à Miku Miku Dance, ou MMD hein, pour les intimes, qui est donc une sorte de logiciel 3D qui a été créé dès 2008 pour permettre de mettre en scène des chorégraphies avec des petits modèles, des modèles 3D, donc de Miku et d'autres vocaloïdes, ou même de ce que vous voulez, hein. Vous pouvez importer des choses de Blender ou d'autres logiciels, et vous pouvez créer de véritables vidéoclips, et il y a des vidéoclips en fait qui complètement artificiels, complètement en 3D, qui ont commencé à apparaître sur Nico Nico Douga, et sur YouTube aussi d'ailleurs, hein. Et au fur et à mesure, donc, il y a donc une espèce de communauté qui s'est fédérée autour de Hatsune Miku, autour des vocaloïdes. Et la musique, en fait, de Hatsune Miku et de ses amis, hein, puisqu'après il y en aura d'autres, bien entendu, c'est quelque chose qui est fait par les fans et pour les fans. Et il y a, du coup, il y a absolument tous les types de musique possibles. Il y a vraiment, vraiment un grand choix de types de musique. Il n'y a pas du tout que de la J-pop, même s'il y a évidemment beaucoup de J-pop. Il y a aussi un petit peu tous les styles. D'ailleurs, là, je vais vous mettre une petite suite d'extraits. Donc des extraits de quelques chansons d'Hatsune Miku parmi les plus populaires, qui font partie d'ailleurs du répertoire de Project Diva, le jeu vidéo, dont je reparlerai d'ailleurs un petit peu après. Et puis il y aura une petite surprise à la fin, vous verrez, plutôt vous entendrez.
Bye. 愛いタコガラシそよそよと可愛いタコの葉はひらひらと
合間見える日を
待ちながら時を数え歩く
Voilà, alors mis à part la dernière chanson que vous avez probablement repérée comme étant pas du tout en japonais, en tout cas je l'espère, puisque vous avez entendu donc dans l'ordre hein, Freely Tomorrow, composé par Michi M, Summer Idol, composé par Oster Project, Odds and Ends par Rio, Wintry Winds de Sigoto Sitp, et donc enfin le dernier c'est Alice. De Voxwave qui vous a chanté Sous cette pluie. Alors évidemment, ça peut-être que vous avez déjà entendu parler d'Alice. Alice, c'est la première Vocaloid française. Elle parle aussi japonais d'ailleurs. Je dis Vocaloid, mais c'est pour aller vite parce qu'en fait, techniquement, les Vocaloid c'est encore la propriété de Yamaha. Et donc Voxwave n'a pas les droits du mot Vocaloid. Probablement c'est pas exactement la même technologie non plus d'ailleurs, donc c'est pas techniquement parler une Vocaloid, mais évidemment c'est tout à fait le même principe. Et donc Alice est la tentative de Hatsune Miku française, hein. Elle a donné des concerts live d'ailleurs en projection comme le fait Hatsune Miku depuis longtemps, et elle avec des vrais musiciens d'ailleurs aussi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle a failli concourir à l'Eurovision, puisqu'en fait, elle s'est présentée parmi les autres candidates pour représenter la France en 2017. Ça ne s'est pas fait. Heureusement ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'était original. Alice existe toujours. Elle a aussi une petite communauté en France. D'ailleurs, pas plus tard que la fin du mois, donc on est en 2019, donc en mars, fin mars 2019, Alice va se produire à l'Atrium à Lyon. Donc c'est un concert comme ça qui aura lieu à 20h30. Alors, c'est un concert c'est un concert de relativement petite taille, puisque apparemment il y aura donc un guitariste et Alice sur scène. Donc, à la manière, effectivement, d'un concert de Hatsune Miku. Parce que oui, les Vocaloid donnent des concerts. Alors, si vous avez jamais vu, évidemment, ça peut paraître très étrange, avec des yeux occidentaux, c'est vrai que ça peut paraître très étrange, puisque, évidemment, sur la scène, il n'y a personne, il y a juste Hatsune Miku et les chanteurs et chanteuses artificiels qui sont projetés sur une espèce d'écran comme ça, sur une grande surface de verre, donc on dit que c'est des hologrammes. En réalité c'est pas vraiment des hologrammes, c'est juste un effet de paper ghost quoi, c'est un vidéoprojecteur qui projette sur un verre Hatsune Miku à taille réelle, si on peut dire, et donc vous avez par contre la plupart du temps vous avez un véritable orchestre. Donc c'est assez amusant de voir un véritable orchestre avec de véritables instruments qui font la musique et Miku qui chante donc avec son synthétiseur. Et donc vous me direz, mais c'est quand même bizarre cette histoire de faire chanter des Vocaloid. Surtout que, si vous avez bien remarqué, quand je vous ai donné les auteurs des titres que vous avez entendus précédemment de Hatsune Miku, je vous ai donné des pseudos en fait, des pseudos de gens sur internet, Michi M, Oster Project, Rio, etc. Il y en a des milliers en fait, parce que des chansons pour Hatsune Miku, il y en a des milliers littéralement, et pour les autres Vocaloid aussi. D'ailleurs, au passage, dans Summer Idol, vous avez entendu aussi, non seulement Miku, mais aussi Rin, qui est donc une autre vocaloïde féminine qui est sortie plus tard. Et dans Winter Winds, vous avez peut-être remarqué, vous avez peut-être reconnu Kaito. Et donc la voix féminine, c'était celle de Meiko, voilà, dans une espèce de chanson un petit peu traditionnelle japonaise, comme ça. Et donc, ce qui est intéressant avec cette histoire de Vocaloid, c'est qu'effectivement, les chansons sont toutes gratuites. C'est-à-dire qu'elles sont produites par des amateurs, elles sont postées gratuitement sur Nico Nico Douga ou ailleurs, et elles sont écoutées de manière complètement gratuite. Et quand vous allez à un concert, vous payez effectivement, parce qu'il faut quand même organiser le concert, mais en réalité, ce que les gens vont voir, ce sont des chansons qui sont produites non pas par une maison de production, mais par eux-mêmes. C'est ça qui est qui est vraiment unique avec Hatsune Miku, c'est que un concert d'Hatsune Miku, c'est pas un concert normal. C'est une sorte de célébration de la communauté. C'est un événement social. C'est-à-dire que quand dans le public, il y a probablement des gens qui ont composé pour Hatsune Miku. En fait, c'est leur œuvre qui est en train d'être chantée. Et alors, ce qui est vraiment marrant avec cette histoire, c'est que, dans une certaine mesure, c'est complètement à l'envers de ce que nous, on connaît au niveau musical, et c'est aussi complètement à l'inverse de ce qui se passe avec les vrais idoles, les idoles standards japonaises. Et c'est un petit peu là que je voulais en venir au niveau de quand je disais que, en fait, Hatsune Miku était l'inverse d'une idole. C'est parce que, en gros, pour fabriquer une idole, il faut une grosse maison de prod. Cette grosse maison de prod, elle va sélectionner des nanas, donc avec un casse par casting. Quand elles sont vraiment mignonnes, ou qu'elles pensent qu'elles peuvent plaire donc aux fans, on va les prendre, on va les former au chant, à la danse, etc., aux chorégraphies. Et puis, on va les balancer avec des chansons qui sont produites un petit peu comme ça à la chaîne pour plaire, qui sont très calibrées. Et donc, finalement, c'est une approche qui est top-bottom, comme celle qu'on connaît, quoi. On a évidemment la même chose ici avec les boys band, les girls band, et bon, les chanteurs de pop en général, c'est quand même un petit peu toujours comme ça. Hatsune Miku, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, il y a Krypton qui vend un logiciel. Et ce logiciel, il est utilisé par des milliers de personnes. Ces milliers de personnes s'organisent entre elles de manière complètement organique pour créer des chansons, créer des clips, créer même du lore, c'est-à-dire créer créer un design, créer des choses comme ça qui créent un petit univers en quelque sorte. Et cet univers se retrouve sur scène. Et donc, on a une approche qui est complètement bottom-up, c'est-à-dire que les fans créent quelque chose pour eux, pour d'autres fans, et au passage, après, ça devient aussi des produits commerciaux. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le business model de tout ça? C'est un business model qui donc n'a rien à voir avec celui qu'on connaît, et en plus, on peut se demander comment tu veux vendre de la musique qui est déjà gratuite, puisque la quasi-totalité de la musique de Hatsune Miku est gratuite. C'est une excellente question, et c'est quelque chose qui est assez profondément ancré dans la mentalité japonaise, puisqu'en fait, c'est le même schéma que les doujin. Alors, les doujin, c'est, pour ceux qui savent, évidemment, je ne vais rien apprendre, mais c'est ce que nous, on appellerait du fan art ou du fanfic, c'est-à-dire c'est des œuvres de fans, des œuvres d'amateurs, qui sont la plupart du temps commercialisées à compte d'auteur, qui sont donc distribuées de manière assez confidentielle lors des conventions, lors des comiquettes et ce genre de choses. Ce sont des événements qui regroupent beaucoup de gens, mais évidemment, la distribution d'un doujin, au début, elle est vraiment pas quasi confidentiel, quoi. Donc le doujin, c'est fait par les fans et pour les fans. Et du coup, évidemment, c'est quelque chose qui brasse pas beaucoup d'argent à la base, mais à un moment donné, il y a effectivement les grandes marques, les gros éditeurs, on va dire le mainstream, l'industrie mainstream, qui va jouer un rôle très important sur la scène doujin, en prenant les meilleurs, ceux qui ont le plus de succès, ceux qui choisissent d'une certaine manière, et en, disons, les commercialisant, en faisant un produit. Alors, les auteurs de doujin, en fait, recherchent ça, et c'est quelque chose qui est hyper important pour deux raisons. D'une part, parce que ça permet de diffuser l'œuvre de manière extrêmement large, beaucoup plus large qu'avant, et puis ça permet de l'ancrer dans le temps. C'est-à-dire que le doujin, évidemment, c'est pas quelque chose qui est vraiment très pérenne. S'il n'est pas vraiment publié à grande échelle, il risque de pas rester. Donc il y a il y a un rôle d'historien un petit peu aux marques qui vont s'intéresser au doujin et qui vont le commercialiser, qui vont en faire quelque chose de masse, qui vont le faire pénétrer le mass market, quoi. Et du coup, on peut se poser la question, comment ça se passe avec Miku? En fait, ça se passe un petit peu de la même manière, c'est pour ça, c'est-à-dire que globalement, les chansons qui sont faites pour Hatsune Miku par les fans, vont rester donc sur Nico Nico par exemple, et puis à un moment donné, un gros acteur va s'intéresser à tout ça et va créer quelque chose, un produit qui va contribuer en fait à la puissance de Miku, à la puissance de la marque, à la puissance de cet univers, et donc il faut qu'il le fasse sans le trahir. Donc il y a, évidemment, ça, des fois ça arrive que les marques puissent trahir certaines choses, et en général c'est rejeté par les fans, donc c'est un échec. Puis il y a des fois, au contraire, c'est avalisé par les fans parce que c'est le meilleur truc qui pouvait être fait avec. Et là, l'exemple que je vais donner pour Hatsune Miku, c'est le procès Sega et les jeux Project Diva. Puisqu'en fait, la grosse particularité, je pense, hein, de Project Diva, c'est que toutes les chansons qui sont utilisées dans le jeu sont crowdsourcées. Alors, si évidemment, si vous connaissez pas Project Diva, je vais rappeler un petit peu ce que c'est. C'est un jeu de rythme, qui est tout bête, en fait, hein, puisque, enfin, en tout cas, a priori, c'est un jeu de rythme où vous avez des symboles qui sont sur l'écran, quoi, là, qui arrivent dans des cibles, comme ça, il faut taper au bon moment. Évidemment, il faut taper en rythme. Donc, sur la manette PlayStation, puisque ce sont des jeux PlayStation, en général, il y a aussi des jeux d'arcade, néanmoins. Et donc, Project Diva, c'est des jeux qui sont des jeux de rythme qui peuvent être utilisés un petit peu partout. C'est sorti sur PSP, donc sur un format portable, au tout début. Et puis, il y en a aussi pas mal sur PS Vita. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que, d'une part, bon, c'est un pur jeu d'arcade, donc il est vraiment excellent. Dans le sens où, au niveau, en termes de jeux vidéo, c'est quelque chose qui est assez simple à prendre en main, mais vous pouvez passer des dizaines et dizaines d'heures dessus. Il y a une énorme marge de progression, puisque vous avez des modes de difficulté, en veux-tu, en voilà, il y a un système de scoring, enfin tout ça fait que vous pouvez passer votre vie sur Project Diva à essayer de vous améliorer, et tout est vraiment très addictif. Enfin, au niveau jeu vidéo, c'est vraiment extrêmement bien fait. Sega sait faire des jeux d'arcade, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et donc Project Diva, c'est probablement un excellent jeu, mais c'est aussi un jeu qui est très respectueux du matériau d'origine. C'est-à-dire que quand vous jouez sur Project Diva, donc vous avez la chanson de Hatsune Miku et de ses amis, hein, puisque vous avez donc un roster, maintenant vous avez non seulement Kaito et Meiko qui ont été depuis, bah, heureusement pour eux, les pauvres, c'est vrai que ça fait, au début ils ne sont pas énormément vendus, mais rassurez-vous, hein, ils ont été transférés sur les autres versions de Vocaloid, puisque aujourd'hui on est né au Vocaloid 5, je crois, donc ils ont traversé les âges et les versions de Vocaloid. Aujourd'hui, ils font partie un petit peu de toute la bande, avec Lin et Ren, avec Luca, etc. Donc il y a donc pas mal de Vocaloid différents. Et donc ces Vocaloid, elles vont chanter, voilà, vous avez le clip. Et les clips qui sont derrière, c'est des clips qui sont faits par la communauté aussi. C'est la chanson, c'est une chanson qui a été faite par la communauté. Et Sega, lui, a rajouté la couche de gameplay qui est par-dessus. Et c'est vrai que quand vous jouez à un jeu Project Diva, la musique que vous écoutez, c'est de la musique gratuite en fait, mais vous payez pour le jeu. Et le fait est que ça a été très bien reçu par les fans parce que c'est respectueux du matériau d'origine, et que quelque part, toutes les chansons qui ont été sélectionnées, qui sont à l'intérieur, sont là pour la postérité, quoi. Elles sont évidemment beaucoup beaucoup plus populaires que sinon, puisqu'elles sont axées à un public beaucoup plus large. Et ça a un impact énorme. D'ailleurs, pour vous donner une idée, Project Diva F, qui est le premier jeu PS Vita sorti, a été donc le jeu PS Vita le plus vendu au Japon en 2012, et ça a multiplié par 5 le nombre de PS Vita vendus cette année-là. Donc ça a eu un impact considérable. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a 3 jeux PS Vita de Project Diva. Bon, ce sont encore des jeux qui sont excellents, d'ailleurs. Si vous voulez essayer, je vous les conseille. Moi, c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai connu le phénomène Vocaloid, par la PS Vita, tout simplement, puisque avant, je connaissais de loin, mais c'est par le jeu vidéo et c'est par Project Diva que j'ai un petit peu appris comment tout ça fonctionnait. Donc ce qui est intéressant finalement avec Project Diva, avec Hatsune Miku, c'est que donc dans le cas du jeu vidéo, vous achetez le jeu vidéo, les fans vont acheter le jeu vidéo sans aucun problème, les fans de Hatsune Miku vont acheter le jeu vidéo, c'est clair et c'est net, ils vont s'éclater avec. Et en fait, c'est la même chose pour les concerts, c'est la même chose pour les disques. C'est-à-dire que vous quand vous fabriquez vous sortez un disque de Vocaloid, vous pouvez vous demander, mais qui va acheter le disque qui est rempli de chansons qui sont de toute façon déjà gratuites et déjà disponibles sur Internet. Et parfois même illustrées par avec des illustrations qui sont elles-mêmes disponibles sur Internet. La réponse, en fait, c'est que Non seulement il y a un public pour ça, mais il est très important et il paye de manière, enfin il paye sans aucun problème. En fait, c'est même à tel point qu'en Chine, où Hatsune Miku est elle-même aussi très connue, et qui est, bon, on va pas se mentir, une terre de piratage qui est quand même vraiment très très... où le piratage est quand même quelque chose de vraiment bien entré dans les mœurs, eh bien, il y a, chaque fois qu'ils sortent un truc de Vocaloid, chaque fois qu'ils sortent un CD de Hatsune Miku, eh bien, non seulement les précommandes sont pleins, mais ils se vendent très très bien, et il n'y a aucun problème. Et donc, ça nous fait nous interroger sur la question du droit d'auteur, quelque part. Parce que, finalement, c'est vous avez donc une chanteuse qui s'appelle Hatsune Miku, qui pourrait s'appeler n'importe comment, cette chanteuse, elle fait que de la musique gratuite. Toute la musique de Hatsune Miku est gratuite, la musique de ses collègues aussi sont gratuits, et pourtant, bah c'est un phénomène qui vend incroyablement, qui est incroyablement populaire. Lady Gaga donc a annoncé il y a quelques années que Hatsune Miku allait faire sa première partie. Hatsune Miku est connue absolument partout dans le monde, même en France, même si on ne sait pas forcément exactement ce qu'il y a derrière. C'est un phénomène qui est impressionnant au niveau marketing. Sa puissance est absolument incroyable. Il y a des cosplays Hatsune Miku, il y a même énormément de produits dérivés qui se vendent tous très très bien. Donc finalement le marché Hatsune Miku, l'économie Hatsune Miku est florissante, ça marche très très bien, et pourtant le matériau artistique de base, lui, n'est pas payant. C'est vraiment un contraste assez important avec ce qui se passe en Occident, où au contraire, évidemment, le matériau de base est payant, et tout le reste aussi, tous les dérivatifs sont payants aussi, et bien entendu, si vous essayez d'écouter gratuitement des artistes occidentaux, vous allez évidemment tomber sous le coup de lois anti-piratage, etc., vous allez vous faire, il va y avoir la chasse aux pirates. Alors du coup, la question se pose, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution ? Le phénomène Hatsune Miku nous montre qu'une autre voie est possible dans le domaine du droit d'auteur, parce que tout simplement, la musique qui est fabriquée, elle est fabriquée par les fans, elle est écoutée par les fans, cette communauté est assez active, et elle veut bien payer, en fait. Et quand un fan d'Hatsune Miku achète un CD, bah, il n'achète pas un CD pour avoir la musique, parce que de toute façon il l'a déjà, mais il l'achète pour soutenir, pour montrer qu'il est fan, et pour soutenir les créateurs, tout simplement, donc les créateurs qui peuvent être une dizaine, hein, pourquoi pas, pour avoir fait à la fois la musique, et pour avoir fait le clip, etc. Tous ces gens-là qui n'ont pas vraiment de visage, hein, ils ont des noms, mais la plupart du temps, ce sont des pseudos. Tous ces gens-là, bah, ils sont quelque part, voilà, c'est pour montrer qu'ils sont fans et qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc, il y a... Hatsune Miku, c'est un phénomène social, socio-culturel, qui est vraiment intéressant, parce que, justement, il montre qu'il peut y avoir une espèce de d'anti-idolisation, une espèce d'économie artiste, d'économie de la musique qui peut être vraiment très différente de celle qu'on connaît, donc c'est quand même quelque chose de... Enfin, je pense que c'était quelque chose qui était quand même assez intéressant à regarder. En plus, un autre point qui est assez intéressant, c'est que dans le système Miku, finalement, ce sont les créateurs qui sont sur le devant de la scène. Je m'explique. Quand vous écoutez une chanson de Taylor Swift, vous savez que c'est une chanson de Taylor Swift. Mais en réalité, vous savez pas qui a fait la musique, qui a fait les paroles, qui a composé ce truc-là. Taylor Swift, c'est une interprète que vous pouvez trouver agréable ou pas, mais... Finalement, la création elle-même, c'est pas quelque chose qui est mise en avant. Ce qui est mise en avant, c'est la figure marketing qui va faire vendre les disques. Avec Hatsune Miku, c'est exactement l'inverse. Tout le monde sait que c'est Hatsune Miku qui chante, et tout le monde s'en fout, puisque évidemment, bah, c'est juste un outil, en fait, Miku. Par contre, les créateurs, eux, bah, ils sont connus, ils sont reconnus, en tout cas dans la communauté, et ils sont placés au premier plan. Donc ça aussi, c'est une différence qui est quand même majeure. D'autant que ça ouvre la voie à des chansons qui ne sont pas forcément des chansons commerciales. C'est-à-dire que les gens qui utilisent Hatsune Miku, donc la voix de Krypton, et qui upload des chansons, en fait, ils écrivent absolument ce qu'ils veulent. Comme c'est souvent pas des professionnels ou c'est des semi-professionnels, ils vont écrire des chansons qui leur fait plaisir à eux, qui expriment ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et puis c'est tout, sans aucune forme de préoccupation commerciale. Alors évidemment, il y a des chansons qui sont très commerciales aussi, mais pas seulement. Il y a une grande liberté artistique du fait que de toute façon, ben voilà, on est dans le monde d'indé et on y reste et on y est bien, quoi. Et voilà, donc c'est quand même assez important de voir aussi que Miku, c'est aussi, enfin les chansons de Miku, c'est aussi le miroir des fans, c'est le miroir du public. C'est-à-dire que Miku, au lieu d'être une idole, c'est un miroir qui reflète quelque part ce que le public a envie d'exprimer. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'elle a un aussi grand succès. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais raconter sur Hatsune Miku et sur le phénomène socioculturel que c'est, qui donc nous interroge un petit peu sur ce que peut être la création musicale, même à très grande échelle, et aussi sur ce que pourrait devenir le droit d'auteur dans un monde où on peut le dire, hein, l'histoire de la carotte et du bâton pour les vilains pirates ne paraît pas extrêmement efficace finalement. Donc peut-être qu'une autre voie est possible. Donc c'était quand même assez intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant. J'espère que ça vous aura intéressé aussi. Et donc, voilà, même si vous êtes imperméable à la J-pop ou que vous aimez pas la voix de Miku, vous avez le droit, hein, c'est une voix très, très aiguë. La voix de Saki Fujita, évidemment, va pas forcément plaire à tout le monde. Mais au-delà de ça, au-delà du goût ou pas pour ce type musical particulier, c'est un phénomène qui est pas forcément extrêmement connu en France, même si quelque chose qui, j'en suis conscient, est quand même assez mainstream, et je pense qu'il y a plein de gens qui connaissaient déjà et pour lesquels j'ai rien appris, hein, bien entendu. Mais bon, voilà, si c'était pas le cas, si comme moi, assez récemment, vous avez découvert, enfin, assez récemment, il y a quelques temps, moi j'ai découvert ça par le jeu vidéo, en réalité, hein, d'ailleurs, si, petite anecdote, je cherchais un jeu Vita qui s'appelle Silent Hill Book of Memories, je sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est un très mauvais jeu. N'y jouez pas, mais bon, je voulais quand même l'avoir pour l'essayer, et puis bon, voilà, je collectionne un peu sur Vita, donc. Et donc je l'avais repéré à Micromania, et quand je suis arrivé, il n'était pas là. Et donc j'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait, et je suis tombé sur Project Diva F-Second. Et bon, j'avais vaguement entendu parler de Project Diva et de Hatsune Miku, mais ça me disait pas grand-chose. Et pourtant, je me suis laissé tenter, je me suis dit, bah écoute, on va essayer, allons-y. Et donc j'ai pris ce jeu, et donc j'ai beaucoup aimé ce jeu en tant que jeu vidéo, mais ça m'a aussi poussé à chercher un petit peu, mais qui écrit ces trucs, comment ça marche, comment ces machins fonctionnent, et du coup voilà, donc ça m'a fait découvrir tout un pan de la pop culture que je connaissais très très mal. Voilà, c'est encore une fois les vertus de la sérendipité, donc écoutez, laissez-vous surprendre. Moi je vais vous dire en tout cas merci si d'avoir écouté jusqu'ici ce paraculte un petit peu spécial, hein, paraculte solo. Je pense que ce sera pas forcément toujours le cas, ne vous inquiétez pas, mais là je veux dire, vu la longueur un petit peu du truc, je pense que c'est mieux d'avoir un format solo comme ça. Ça permettra d'avoir une durée qui reste à peu près correcte. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau numéro de Paraculte, et je vous laisse entre de bonnes mains, puisque en générique de fin, je vais vous laisser avec Megoline et Luca, qui va vous chanter Megane, une chanson sensuelle et langoureuse de Ultra Noob. Allez, ciao ciao.